Le lundi, c'est l'heure de Cop Gwan. Bien sûr, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver avec l'équipe de Choc qui m'accompagne cette semaine. Édouard G, correspondant RMC Sport à Lyon, vous le connaissez, je ne sais même pas pourquoi on vous le présente encore. Bonsoir Édouard.
Bonsoir Élodie.
Ravi de vous retrouver. Avec exactement. Nous également ce soir, Nicolas Rabuel, ancien joueur d'Olympique lyonnais, ancien entraîneur de Valenciennes notamment. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Élodie, bonsoir à tous.
Et Maxime Feuillet, un habitué aussi de Cop Gwan, journaliste Lyon décideur et surtout grand supporter de l'Olympique lyonnais. Bonsoir.
Bonsoir Élodie.
Maxime, on ne perd pas de temps. Vous réagissez via le hashtag Cop Gwan hein, sur les réseaux sociaux. Vous le savez, on va tout de suite partir du côté de la Mosson. Montpellier, l'Olympique lyonnais qui voulait confirmer hier après la victoire contre Marseille et la qualif en quart de finale en Coupe de France contre Lille. Dans la semaine, des Lyonnais qui ont été dominés, vous l'avez vu, c'est Montpellier pourtant qui a marqué contre le cours du jeu après une domination de l'OL en début de période. Arnaud Nordin, l'ancien Stéphanois, a marqué. Alexandre Lacazette, le capitaine, toujours là pour égaliser. Et Maxence Cacré, regardez, c'est magnifique. C'est lui qui donne la victoire à l'OL, une victoire de Buzyn, une victoire précieuse dans la course au maintien. On écoute les réactions d'après-match.
On a égalisé au bon moment. Alex a marqué un superbe but. Et puis Max, un fantastique. On est heureux pour ces trois points, on en a tant besoin.
On n'est pas content de notre match. On se met dans une drôle de situation et donc il a fallu que les valeurs collectives surgissent de manière à nous donner espoir. On avait à la fois pas de rythme, peu d'intention, on a mal géré tactiquement la première mi-temps. Et une fois qu'on était mené au score, jusqu'à maintenant le scénario a toujours été négatif pour nous. Seule une fois contre Lorient, il y a eu un match nul et c'est la première fois qu'on renverse un résultat pour l'emporter. Mais la note de style n'est pas à la hauteur du résultat.
Mais elle fait du bien tout de même, cette victoire. Victoire importante hein, puisque l'OL est désormais 13e au classement de la Ligue 1 avec 3 points d'avance sur le barragiste, 5 sur le premier relégable. C'est tout simplement, messieurs, cette 13e place, le meilleur classement de l'Olympique lyonnais depuis le début de la saison. Nicolas, on l'a dit, ok, Pierre Sage n'est pas forcément content du fond, mais l'essentiel est là. Elle fait énormément de bien, cette victoire à Montpellier.
Oui, c'est vrai qu'il a, et quelque part, il a raison de ne pas être content sur le fond, mais quand on est dans ces objectifs-là, les points sont importants à prendre. Je crois qu'il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, c'est certainement un match que l'OL aurait perdu. Et malgré, tout en étant mené 1-0, ils se sont accrochés, les leaders, les individualités ont fait la différence pour aller chercher l'essentiel, c'était les 3 points.
On parle souvent, j'aime pas forcément cette expression Edouard, mais de match bascule, on cherche souvent ce match bascule pour l'Olympique lyonnais. Est-ce que ça peut être celui-là? C'est la 3e victoire de rang, on le rappelle, après le championnat à Marseille la semaine dernière, la Coupe de France, une victoire aussi contre un concurrent direct, Montpellier. Ça peut être la bascule, le tournant de la saison ou pas?
Vous vous souvenez, on parlait de match référence, c'est ce qu'on demandait après le match de Marseille aux joueurs, et que ce soit les joueurs ou Pierre Sage nous disait la référence, c'est éventuellement si on arrive à être constant, à aligner. Donc là, on commence à aligner, et je rajoute aussi quand même toujours, parce que je pense qu'elle est importante dans la construction de ce qui est en train de se passer, c'est la deuxième mi-temps face à Rennes. Voilà, 0-3 à la mi-temps. Dans les vestiaires, ça a pétaradé, voilà, l'orgueil. Mine de rien, ils ont gagné à deuxième mi-temps. Alors, comptablement, c'est pas important, mais on nous a dit que finalement, le match, la victoire face à Marseille, elle vient de cette mi-temps de Rennes. Et du coup, ben voilà, derrière, on voit des choses. Et puis, ben Lille, c'est quand même pas une petite équipe actuellement. Et puis là, Montpellier, alors oui, la note artistique, elle est pas bonne.
4 ans au match aller, on le rappelle, hein, ça avait été une catastrophe, voilà,
exactement,
le match
aller. Et là, c'est ce qui est important, ce qu'a dit Pierre. Il y a eu un renversement. Lyon était mené 1-0 et Lyon a renversé la vapeur. Et ça, Nicolas l'a dit, il y a quelques jours, quelques semaines, ce n'était pas jouable.
Le scénario, effectivement, Maxime, qui est important dans les têtes, parce qu'il y a encore du doute. On l'a vu aussi hier, je le disais, l'OL a plutôt dominé le premier quart d'heure, les premières 20 minutes. Montpellier n'est pas forcément là. C'est Montpellier qui marque, un ancien Stéphanois qui marque. Derrière, on voit que ce but, tout de suite, il y a du doute qui s'installe. On voit que les Lyonnais changent aussi leur façon de jouer. Et du coup, ce scénario final fait du bien aussi.
On a retrouvé un Noël avec du caractère, un Noël à réaction. Généralement, cette saison, quand l'OL prenait le premier but, l'OL se liquéfiait, n'y arrivait pas. Ça a été le cas à Rennes, le match dont parlait Edouard tout à l'heure, 0-3 à la mi-temps. Ça a été le cas au match aller à Marseille, 3-0 pour Marseille. L'OL qui encaisse le premier but, qui se liquéfie ensuite. Ça a été le cas au Havre aussi dernièrement. Je crois qu'il n'y a eu que deux matchs cette année où l'OL a pris au moins un point en ayant pris l'ouverture du score. C'était contre Lorient au Groupama Stadium et contre Metz aussi, l'égalisation de Kelly Alvero. Sinon, l'OL avait perdu tous ses matchs en prenant le premier but. Là, il y a enfin une victoire, il y a enfin un OL à réaction. Tout n'a pas été parfait, loin de là. Mais cette victoire, elle fait du bien. Ce caractère, il fait du bien aussi de le retrouver.
Nicolas, je vais m'adresser à l'entraîneur que vous êtes. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe? Qu'est-ce qui a fait la différence? On parle de l'arrivée de Pierre Sage, les joueurs le saluent justement. Il y a aussi des recrues qui sont arrivées cet hiver. C'est quoi? C'est un peu tous ces ingrédients mis bout à bout finalement qui fait que quelque chose a changé dans ce groupe?
Je pense que beaucoup de choses ont changé. On avait vu au début, quand Pierre Sage a repris l'équipe, il était surtout attaché à retrouver un bloc défensif. Sur les premiers matchs, là on voit autre chose, on voit que dans l'utilisation du ballon, on voit beaucoup de joueurs qui dézonent. Alors ça va amener d'autres étapes où il faudra gérer les transitions, parce que quand dans la construction on se déforme beaucoup comme ça, ça ouvre aussi des brèches à la perte de balles. Donc ce sera un équilibre à trouver, mais Maxime l'a dit, la principale chose qui a changé, c'est surtout la nouvelle énergie dans l'attitude, dans le comportement. Où on voyait avant, quand l'OL était mené au score, on voyait pas du tout la même énergie. Et même si tout n'est pas bien fait avec le ballon, on sent que les mecs, ils se donnent jusqu'au bout. Et je pense que cette énergie fait que sur les 15 dernières minutes, ils arrivent à égaliser, même si tout n'est pas parfait et on était plus proche du plus 2 que du 1 partout, bah cette nouvelle énergie fait qu'ils arrivent à égaliser et puis à mener et puis à marquer le 2-1.
Et on voit aussi cet esprit de groupe retrouver cette joie, ces sourires quand Alexandre Lacazette égalise, quand Maxence Cacré marque, Edouard. Ça aussi, c'est nouveau finalement de voir ce groupe ensemble et cette joie retrouvée.
Oui, c'est les joies de la victoire, les joies peut-être aussi la réussite de Pierre Sage à ce niveau-là, parce que Nicolas, ça doit être difficile hein, de faire arriver des joueurs qui, mine de rien, vont vous piquer votre place quoi, en fait. Et il faut faire adhérer tout le monde. Comment on fait ça? Comment tu sens que ça s'est passé pour y arriver?
Après, alors, il faut déjà humainement intégrer tout le monde, avec certains qui n'ont pas la même culture, qui ne viennent pas du même championnat. Donc ça, c'est un travail au quotidien, en leur parlant en permanence. Un travail du staff, mais également des autres joueurs. Et après, l'autre travail de Pierre Sage, et on l'a bien vu, sur les associations, sur les côtés, avec Benrahma, Nouama, enfin tous les nouveaux joueurs qui arrivent, c'est qu'il allait faire adhérer au projet humain, mais également au projet de jeu. Et tout ce qu'il avait pu mettre en place, Pierre Sage, quand il a repris l'équipe, quelque part, il recommence un petit peu à zéro, parce que je crois que c'est 8 nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et tous ces repères-là, ça prend du temps. Alors, il y a la qualité des joueurs qui va faire qu'il va gagner du temps, mais ceci dit, il faut rebooster le disque dur.
Vous évoquez Saïd Benrahma, justement, c'était sa première titularisation hier avec l'OL. Maxime, vous en avez pensé quoi de cette première?
J'ai bien aimé son apport offensif, le danger qu'il amenait sur l'aile gauche, cette façon à enrouler aussi son pied et le ballon. On l'a vu sur le coup franc, on l'a vu sur une belle occasion aussi, je ne sais plus si c'est en première ou deuxième mi-temps, mais le ballon qui passe pas très très loin du cadre. J'ai moins aimé son apport défensif. C'est vrai que sur l'aile, on a retrouvé un Nicolas Taliafico un petit peu esselé, en position de latéral gauche. Je pense que c'est quelque chose à surveiller aussi. Montpellier a beaucoup raté aussi, l'attaquant montpellierain à Cor Adams a quasiment tout raté ou presque, donc on a eu de la chance, mais Nicolas Taliafico a souvent pris la marée au poste de latéral gauche, et je pense que les efforts défensifs de Saïd Benrahma doivent être aussi améliorés. C'était une première, donc on va pas lui jeter la pierre,
mais
à surveiller aussi. Exactement.
Peut mieux faire aussi pour vous, Nicolas?
Oui, je crois qu'on va y venir sur les top flops, donc peut mieux faire pour moi aussi, et notamment sur, je rejoins Maxime sur l'aspect défensif, ouais.
On n'a pas parlé d'un homme également important hier, on va le développer un peu plus tard, mais Anthony Lopez, Edouard, s'il y a cette victoire d'un aussi...
Je crois que c'était Maxence Cacré, mais bon.
Non. Plus tard. On va en parler, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, mais vous êtes trop pressé comme d'habitude pour parler de Maxence Cacré. Non, Anthony Lopez, un instant rapidement, parce que c'est une situation aussi un peu compliquée pour lui en ce moment à vivre. Il y a cette concurrence avec Péry. Il y a eu des critiques aussi, mais hier encore, Anto Lopez, il fait les arrêts qu'il faut dans ce match.
Le terrain parle, voilà, et sa réponse est sur le terrain, il l'a donné. Hier, 7 arrêts importants, quelques-uns monstrueux, dont celui de la 53e, parce que là, ça peut basculer à 0-2. Et alors là,
c'est un but.
L'arrêt voilà, fait, c'est un but, exactement. Et franchement, répondre comme il répond dans la période actuelle, parce qu'il y a cette concurrence mise par Lucas Perry. Et ben, il était finalement titulaire mercredi. Donc là, ça fait partie un petit peu de la gestion en Coupe de France. Et puis, il y a tout ce qui va sur les réseaux sociaux, tous les commentaires qu'il peut y avoir. Bon, il est assez imperméable à ça, même si fatalement, il y a un moment donné, on va... Ouais. Même si tu lis pas tous les... Bon, il y a des gens qui vont lui... Voilà, il y a une petite musique qui s'installe autour de lui. Ben, il a répondu sur le terrain.
Comme souvent.
Hier, comme souvent, voilà. Et comme ben, ceux qui ont marqué aussi, ce sont des Lyonnais. Finalement, hier, ce sont toutes les bonnes recrues qui ont marqué.
Non, ce fameux ADN voilà, lyonnais dont on parle comme quoi, beaucoup.
Quelque part, on en a un peu besoin pour sauver la maison OL.
C'est compliqué, même quand on a un joueur comme Anthony Lopez avec son expérience, Nicolas, de gérer ces périodes-là, de voir cette concurrence arriver aussi, les critiques qui arrivent un peu de part et d'autre.
Gardien de but, c'est un poste particulier. Et même s'il y a besoin de la concurrence aussi à ce poste-là, il y a une hiérarchie quand même qui est bien établie par rapport aux joueurs. Donc compliqué, non. Il faut surtout savoir comment ça lui a été présenté, l'arrivée de Perry. Est-ce que c'est une vraie concurrence à l'instant T? Est-ce que la hiérarchie reste? Est-ce que ça va être plus que ça? Mais je crois que c'est un poste tellement particulier que peu psychologiquement... Il faut que les choses soient claires et nettes. Et peut-être que quand il est arrivé, ça n'a pas été clair et net et que du coup, ses performances s'en sont ressenties. Est-ce que ça a été clarifié entre-temps? Je ne sais pas. En tout cas, oui, en effet, l'arrêt qu'il fait hier, pour moi, c'est un but.
Avant de passer au top flop et de marquer une pause dans cette émission, j'aimerais qu'on s'arrête un instant aussi sur le milieu de terrain. On n'en a pas parlé. Alors, Edouard, on ne développe pas Maxence Cacré, je vous préviens, pas tout de suite. Mais ce milieu de terrain, justement, avec l'arrivée de Matic cet hiver, Quentin Tolisso, Maxime, qui était aligné aussi hier, qui est sorti pour une gêne à la cuisse. Ce milieu, Corentin Tolisso, Maxence Cacré, beaucoup disent que les deux ensemble, ça ne va pas au milieu de terrain. Vous en pensez quoi?
On l'a vu sur cette première mi-temps où l'OL passe à côté au milieu de terrain, se fait un petit peu manger au milieu de terrain. Tolisso, Cacré, on les adore en tant que Lyonnais. Malheureusement, ensemble, on sent qu'il y a du mal à trouver les automatismes. On sent qu'il y a du mal à se faire respecter au milieu de terrain. Moi, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Mangala, qui est rendue effective par la blessure de Corentin Tolisso, malheureusement. Mais j'ai trouvé que l'apport de Mangala était nettement supérieur. Ça a permis aussi de libérer Maxence Cacré. On en parlera un petit peu plus tard. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec Corentin Tolisso Cacré quand ils sont alignés tous les deux ensemble. Matic fait du bien, on l'a vu face à Marseille. Matic, Mangala et Tolisso ou Cacré, ça peut fonctionner les deux ensemble. J'ai un peu de mal.
Tolisso, Cacré ensemble, faut arrêter.
Mais j'en parlais tout à l'heure, je pense que c'est une histoire d'équilibre parce qu'on a vu que ce que Pierre Sage mettait en place en ce moment, il y a beaucoup de dézonage dans la construction, les latéraux qui vont à l'intérieur, les milieux Matic qui vient un peu plus bas à hauteur de la charnière. Donc ça va être un équilibre à trouver pour que à la fois Corentin Tolisso et Maxence Cacré se retrouvent un petit peu plus haut et qu'on puisse profiter de la bonne frappe de Cacré, mais également surtout sur les pertes de balles quoi, parce que ça va ouvrir des brèches et les adversaires vont en profiter.
Le non, top, je vais me. Alors là, c'est même pas la peine.
Je ne vous fais pas réagir, Edouard. Un peu de patience, votre heure va arriver dans quelques instants. On marque une courte pause, vous restez avec nous, à tout de suite. Allez, on est de retour, on a le sourire sur BFM Lyon, puisque l'OL a gagné hier à Montpellier, une victoire de 2-1 qui fait beaucoup de bien, qui donne un peu d'air aux Lyonnais, 13e hein, de la Ligue 1 ce lundi, avant de recevoir Nice. Vendredi, on va en parler dans un instant, mais d'abord, bien sûr, les top flops. Edouard se languit, il attend ça depuis hier. Il m'a écrit, le match n'était même pas terminé. Et avant son but, évidemment, le top d'Edouard, pour mon retour, c'est Maxence Cacré. Pourtant, je vous avais dit interdiction.
Ouais, ouais, ouais.
Mais là, effectivement, le terrain a parlé. Face à vous, vous allez avoir Nicolas Arabuel pour essayer de nous convaincre avec Maxime que vous avez fait le bon choix. Nicolas, lui, s'est arrêté sur Anthony Lopez. On donne la parole à Nicolas pour commencer et après, vous y allez, Edouard.
Oui, Anthony Lopez, parce que pour moi, l'arrêt qu'il fait à la 53e, c'est un but. Et il le fait avant le but de Maxence Cacré. Donc s'il n'y avait pas eu cet arrêt-là, il n'y aurait peut-être pas eu le but de Maxence Cacré. Donc voilà pourquoi j'ai orienté mon top là-dessus, même si Alexandre Lacazette et Maxence Cacré l'auraient peut-être mérité également. Mais voilà, chronologiquement, s'il n'y a pas l'arrêt, il n'y a pas le but.
Avant de vous lancer, Edouard, 30 secondes, vous ne nous faites pas une thèse sur
Maxence Cacré. Je sens que vous allez dire, oui, il a perdu une vingtaine de ballons avant, etc. Mais il est monté tellement en puissance qu'on ne peut pas faire autrement que de le... C'est lui qui va gratter le ballon pour Alexandre Lacazette et c'est lui qui marque un but du gauche. Moi, je dis, what else? Quoi d'autre? Qui d'autre que Maxence Caqueret?
On peut toujours faire autrement, vous savez, Edouard. Maxime, vous laissez pas influencer surtout, hein, en votre âme et conscience.
Je vais quand même voter pour Edouard et pour Maxence Caqueret. Je pense qu'Anthony Lopez est peut-être un petit peu fautif aussi. On l'a pas dit tout à l'heure sur le débat sur le but d'Arnaud Nordin. Je pense que l'explosivité d'Anthony Lopez n'était pas au rendez-vous sur ce but-là. Je pense qu'il peut mieux faire en regardant les ralentis. Mais évidemment, le but de Maxence Caqueret, la deuxième mi-temps de Maxence Caqueret, est assez incroyable. Donc elle est à féliciter.
Allez, un point pour Edouard, c'est mérité. On va passer au flop à présent avec un homme choisi par Edouard. Je me lance, c'est Maitland Niles. Nice. C'est bon, j'ai réussi à le dire. Et donc c'est Maxime qui va s'opposer à vous. Vous n'étiez pas très convaincu non plus par lui, mais vous avez aussi été déçu, Maxime, par Nicolas Tagliafico.
Par les deux latéraux, Maitland Niles et Tagliafico. Tagliafico, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, j'ai trouvé un petit peu esseulé sur son aile gauche, au poste de défenseur gauche, un poste que Nicolas connaît bien, d'ailleurs. Mais oui, j'ai trouvé qu'il a souvent pris la marée. J'ai trouvé qu'il était tout seul. C'est aussi lié au mauvais repli défensif de Benrahma. Il était un petit peu en deçà de ses dernières prestations, Nicolas Tagliafico. Ça fait quelques matchs, je trouve, qu'il est un petit peu en deçà. On l'a vu face à Marseille, il avait été remplacé par Maitland Niles, justement, qui avait été très bon à ce poste de latéral gauche, dans une défense à 5 aussi. Mais hier, j'ai trouvé un petit peu... pas forcément tranchant, pas à la hauteur de la stature d'un champion du monde. Donc voilà, j'étais un petit peu décivé par l'international argentin.
On lui a souvent reproché ça cette saison, cette statue de champion du monde, et pas toujours au niveau. Edouard,
je sens que vous allez dire que j'ai un cœur d'artichaut, parce que c'était mon top la semaine dernière, et finalement c'est un flop.
Vous savez, les téléspectateurs vous connaissent maintenant.
Quelle ingratitude. C'est vrai que la semaine dernière, il a mis tellement la barre haute d'une certaine manière que là, de retomber un petit peu dans les travers de cet été, ça m'a un petit peu gêné. Alors certes, il a récupéré beaucoup de ballons, mais alors pour en faire
déception
quoi derrière?
Déception amoureuse cette semaine.
Peut-être une petite déception pour Ashley maintenant Nice, parce que j'arrive à bien le prononcer moi. Donc juste pour ça, ça mérite que je gagne.
Nicolas, vous donnez votre prix.
Sans influencer, Nico.
Non, mais j'ai hésité en effet avec Maitland Niles. Maintenant, à sa décharge, c'est quand même pas son poste à la base. C'est quand même plus un milieu de terrain. Sur le premier but, il n'est pas aidé non plus par Nouama, c'est lui qui doit défendre sur Silla, qui a posé beaucoup de problèmes sur le côté droit de l'Olympique Lyonnais. Tagliafico, pas aidé non plus de l'autre côté. Donc, étant donné que Tagliafico est spécialiste au poste, je mettrai plus le point à Tagliafico, en effet.
Et c'est un match nul, Edouard.
Je le note.
Avec ce point donné à Maxime, on en a parlé rapidement dans la première partie. Vous, votre petit flop, c'était pour la recrue pour Saïd Benrahma.
Oui, et j'ai écrit petit flop sur le message ce matin parce que c'est sa première, donc on doit être indulgent avec lui. Ceci dit, quand on prend un joueur de cette classe-là, avec cette expérience-là, comme Matic lui a pas fallu longtemps pour apporter.
Après, pour le défendre peut-être, ça faisait un moment qu'il n'avait pas joué.
Mais complètement. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer sa prestation, et notamment Maxime en parlait tout à l'heure, où en fait on le sentait un petit peu entre je veux tout de suite apporter offensivement, et donc du coup il y a eu des replis défensifs qui étaient pas ou mal faits. Alors peut-être qu'il y a les contre-efforts parce que physiquement il est pas encore prêt. Une relation, j'en parlais, les binômes, une relation aussi à trouver, un équilibre à trouver avec son latéral gauche. Donc voilà, pour moi c'était un petit flop parce que les joueurs de cette classe-là doivent quand même apporter tout de suite.
Faire la différence.
Ouais.
Le calendrier, on se projette, ça va arriver très vite hein, puisque l'OL joue vendredi en ouverture de la prochaine journée de Ligue 1 avec la réception de Nice. 5 matchs de Ligue 1 avant la trêve. Au milieu de tout ça, il y aura bien sûr la Coupe de France face à Strasbourg. Regardez le programme, Nice, Metz, Lens, Lorient, Toulouse... La réception de Nice vendredi, messieurs, c'est encore un nouveau test pour l'OL, puisque Nice en forme en ce moment, Nice qui joue les premiers rôles cette saison en Ligue 1. attention pour nos Lyonnais.
Oui, mais moi, je verrais plus globalement. On était parti sur l'idée qu'il fallait 6 victoires pour sauver. Mmh. Il y en a déjà 2, là.
Il en reste 4.
Il en reste 4, mais sur les matchs qui viennent, s'il y en a 3, notamment face à Lorient, concurrent direct, face à Metz, concurrent direct,
Toulouse,
Strasbourg, c'est la coupe. Donc, voilà, ça peut quand même dégager un petit peu l'atmosphère. Si en plus, vous rajoutez une qualification pour la Coupe de France qui serait demi-finale au mois d'avril, ça veut dire que, allez, en se projetant mi-mars, on peut avoir une éclaircie et se dire l'année prochaine.
Partir avec la trêve internationale, un peu serein.
Un peu serein au niveau du championnat pour l'année prochaine et pourquoi pas se concentrer sur la Coupe s'il y a qualif face à Strasbourg.
Ouais, ça va être la difficulté parce qu'il faut à la fois prendre les points en championnat, mais la Coupe va être hyper importante parce que c'est quand même le chemin le plus court pour retrouver la Coupe d'Europe.
Et le seul hein, cette année.
Oui, c'est le seul. C'est le seul. Donc voilà, faut réussir à jouer sur les deux tableaux, se maintenir rapidement pour pouvoir laisser un peu plus de place que ce qui était prévu à la Coupe de France, qui peut ramener l'Europe.
Et ce sera donc vendredi soir au Groupama Stadium. Vous serez aux commentaires, évidemment, Edouard.
J'en ai bien peur.
Et hier soir, vous étiez aussi au Groupama Stadium pour les filles. C'était l'affiche de la D1 féminine. Évidemment, mais ça, on sait déjà. La D1 féminine, l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain. Les résultats du week-end avec Fanny Cousin.
En D1, premier accro pour l'OL féminin hier. Après 14 victoires en autant de matchs de championnat, les Lyonnaises ont perdu leur premier point face aux Parisiennes, tenues en échec un but partout sur leur pelouse. Longtemps menées au score après le but de Shawinga peu après l'heure de jeu, les joueuses de Sonia Bonpastor ont fini par égaliser dans le temps additionnel sur un but contre son camp d'Elisade Almeida. Un nul un partout qui ne change pas grand-chose dans la course au titre, puisque si l'OL est toujours en tête avec 10 points d'avance sur le PSG, cette saison et pour la première fois de l'histoire, les championnes de France seront désignés après les play-offs auxquels participeront les 4 premières équipes du classement. En basket, après des défaites face à Monaco puis Baskonia, l'ASVEL a retrouvé le chemin du succès en surclassant Bourg-en-Bresse dans le choc de la 23e journée de Betclic Elite. Dans une astroballe pleine à craquer, les Villeurbanais prennent rapidement le large grâce notamment à Nando De Colo de retour après 7 semaines d'absence. Le match devient alors électrique dans le milieu du 3e quart-temps. De Colo est exclu pour faute technique, ce qui n'empêche pas le club rhodanien de garder la main et finalement s'imposer 84-61. Un succès précieux qui permet aux joueurs de Pierrick Poupet de reprendre la deuxième place du championnat. Et puis la 3e édition du Meeting Indoor de Lyon avait lieu vendredi à la halle Stéphane Diagana de la Duchère et certains Lyonnais se sont illustrés à l'image de Yann Spielmann sur 400 mètres. Le jeune espoir étudiant à l'EM Lyon a terminé 2e de l'épreuve en 46 secondes 49 à seulement 9 centièmes du record de France Espoir. Le Marocain Abdelati El Guessé a lui réalisé la meilleure performance de l'année sur 800 mètres en 1 minute 45 secondes et 28 centièmes. Tandis que sur 60 mètres haies, le Français Dimitri Bascou, médaillé de bronze des Jeux de Rio en 2016 en 110 mètres haies, n'a pu faire mieux qu'une 5e place.
Allez messieurs, rapidement, votre prono pour vendredi soir, OL Nice, Maxime.
Une petite victoire, 1-0, comme
allez,
à l'ancienne.
La 4e de rang, allez. Nicolas.
J'aime bien le 1-0 aussi, mais je pense qu'on va peut-être reprendre un but. En tout cas, les 4-5 jours de récup vont faire du bien après une semaine qui va s'enchaîner, mais victoire 2-1.
Soyons fous, 3-1.
Bon, il n'y aura plus que vous, je pourrais charrier que vous la semaine prochaine, Edouard, pour cette victoire 3. En tout cas, on en parlera dans Cop Gun lundi prochain. Merci de nous avoir suivis. Très belle semaine à tous.